Pour continuer ce cours Microsoft Virtual Academy, nous venons de parler beaucoup de l'Active Directory, son installation, son exploitation, les bonnes pratiques. Pour terminer ce cours, le dernier module concerne la gestion des réseaux d'âge, des agences d'une manière générale, et finalement la géographie et les liaisons réseau qui se cachent derrière, ainsi que les problématiques de sécurité qui peuvent se produire. Donc dans l'Active Directory, on a un concept réel de site géographique et par défaut, tous les contrôleurs de domaine sont dans un même site appelé judicieusement le Default First Site Name. Ça signifie en fait, puisque nous n'avons qu'un seul site, que la réplication des données, vous vous souvenez, j'ai dit si nous avons plusieurs contrôleurs de domaine, tout réplique, se fait le plus souvent possible, plus concrètement, au pire, toutes les deux minutes, en général avant. Mais s'il ne peut pas faire plus vite, il se contraint à au pire 2 minutes. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de contrôleurs de domaine, y a du trafic réseau de réplication. Et on peut se dire, tiens, oui, mais j'ai un contrôleur de domaine qui est sur un site distant, relié par une liaison plutôt lente. Je n'ai pas tellement envie que toute la journée, j'ai du trafic de réplication qui vienne perturber mon trafic fonctionnel. Donc, à cet effet, je vais pouvoir régler des sites géographiques différents et indiquer mes propres paramètres de réplication qui ne seront plus cette fois le plus souvent possible. Donc on va voir ça au travers d'une démonstration qui va définir les sites et les réplications. Donc à cet effet, j'ai un outil nommé tout simplement Sites et Services Active Directory. Je le lance. Ça commence à être un peu lent. Hop, on va faire un peu de ménage. Et comme annoncé précédemment, j'ai bel et bien qu'un seul site qui s'appelle le Default First Site Name et dans lequel j'ai bien mon contrôleur de domaine DC1. Ce fameux site, d'ailleurs, je vais m'empresser de le renommer afin de mettre mon site principal, celui qui contient mon siège, admettons. Et puis, je peux créer des nouveaux sites. Je vais en créer un seul dans un premier temps. À terme, j'en créerai 3. Vous verrez pourquoi. C'est intéressant. Ça va être intéressant dans ma démonstration à partir de 3. Et donc, quand je crée un nouveau site, il me dit, il m'explique tout, quoi. C'est très simple. Il vient d'être créé. Ce qui serait très important, c'est d'ajouter des sous-réseaux. Parce qu'en effet, faire des sites, c'est bien gentil. Mais en fait, il y a un concept de réseau IP. Donc, je vois ici qu'il y a des notions de réseau. Alors, je vais faire un nouveau réseau. Je l'écris de manière très simple en notation CIDR. Et je dis, le réseau 1035/16 est à Rennes. Tiens, mais j'avais rien défini pour Nantes. Allons-y, je vais créer un réseau pour Nantes. Cette fois, je vais être concret, puisque c'était quand même que des données d'exemple. Mon contrôleur de domaine DC1 est sur quel réseau? Sur le 10.1.0.0/16. Très bien, je vais le lire. C'est Nantes. Bien sûr, à Nantes, c'est un gros réseau. Il y a peut-être d'autres réseaux réels IP. Je vais en faire un autre. Hop, c'est le réseau de Nantes. Et donc, je retrouve ici un récapitulatif. Si je trie par site, j'en ai que 3 sous-réseaux, qui me dit bien, à Nantes, il y a 10.1, 10.2, à Rennes, il y a 10.35. Très intéressant. Faisons un dernier site et un dernier réseau. Donc ça, c'est pas le réseau, c'est le site, faire un site Paris. Et je vais lui mettre un réseau. Raté, il faut bien entendu sélectionner ce site. Donc après, à moi de mettre à la main les serveurs dans le site adéquat, donc là je ne vais pas le faire parce que ça va perturber mon infrastructure vu que mon DC1 est bel et bien dans le réseau 10.1, mais si je devais le changer de réseau, je changerais son IP, à savoir que très très souvent dès l'installation, si vous avez déjà fait votre infrastructure de site et vos sous-réseaux, dès l'installation d'un nouveau contrôleur de domaine, en fonction de son IP, il se met tout seul dans le bon site. Une bonne pratique, c'est quand même d'aller vérifier. Qu'est-ce que je peux faire avec ces sites ? Alors sachez qu'en termes de réplication maintenant, en fait, par défaut, l'Active Directory décide que vous avez des liaisons entre tous vos sites, c'est-à-dire qu'il existe Nantes-Rennes, Nantes-Paris, mais aussi Rennes-Nantes, mais aussi Rennes-Paris. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cas. Si votre siège, c'est Nantes, peut-être que toutes les liaisons réseau passent par Nantes et qu'il n'y a pas de liaison directe entre Rennes et Paris. Par défaut, il a considéré que c'était juste. Donc pour désactiver cet état par défaut, il faut aller sur la configuration du transport IP, propriété, et lui dire, oui, je ne l'avais pas coché, c'est déjà coché. Il me dit que tous les sites sont reliés entre eux, hein, d'une certaine manière. Donc ça, c'est quelque chose que, par retour d'expérience, beaucoup d'administrateurs ont oublié et se demandent pourquoi la réplication fait des choses bizarres au niveau des chemins. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas un backbone global sur tous vos sites, à décocher ceci. Et donc, puisque je l'ai décoché maintenant, ça va être à moi de dire très précisément entre quels sites j'ai des liaisons réseau. Donc je vais faire un nouveau lien entre les sites. Je retrouve ici ma liste de sites et je vais dire, tiens, je veux relier Nantes. Enfin, physiquement, j'ai une liaison Nantes-Rennes. Donc ben, je le dis, je mets un nom judicieusement choisi et je dis, c'est Nantes-Rennes. Pareil pour la liaison Nantes-Paris, petit raté, hop. Et voilà, et ce lien-là, qu'est-ce que c'était? Alors il était au début par défaut, et il disait, bah, tout est relié. Non seulement on a une case à cocher, et par défaut, tous les sites vont dans Default IP SiteLink, enfin parce que je l'ai choisi. Du coup, ce lien-là, qui était par défaut et obligatoire tant qu'il n'y en avait pas, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Et donc j'ai une vision assez claire en termes d'adresse IP et de lien intersite de ce qui est mon réseau physique. Et maintenant, je vais pouvoir régler, par exemple, ma réplication et dire, tiens, par exemple, la réplication entre Nantes et Paris, ça ne se fait pas pendant les heures ouvrables de la semaine parce que on n'a pas un super débit et conclusion, j'ai pas envie d'être perturbé par le trafic de réplication. Tiens, j'ai introduit le samedi, on va aller le remettre le samedi, hop, et voilà. Et donc on travaille de 8h à 18h et donc il n'y aura pas de trafic des réplications. Et par contre, la nuit, ainsi que le week-end, j'ai envie de dire, la réplication aura lieu avec une fréquence de toutes les 30 minutes. Donc c'est bel et bien moi qui décide. Entre Nantes et Rennes, j'ai une liaison certes relativement lente, mais pas si lente que ça. J'ai envie de dire, je laisse une réplication 24-24 toutes les heures. Et voilà, terminé, j'ai fait ma configuration de site. Chaque ordinateur sait maintenant dans quel site il est, ça va lui. Et mes contrôleurs de domaine vont répliquer tel que je lui ai imposé. De plus, ça va vous permettre, un ordinateur poste de travail utilisateur qui se trouve à Paris, en fonction de son IP, saura aller sur le serveur contrôleur de domaine de Paris, si jamais il y en a. Dans ma démonstration, je n'en ai pas, mais le jour où il y en aura, un poste de travail ouvrira une session, pourra dialoguer directement avec un serveur de Paris. Puisqu'il n'y en a pas d'ailleurs, ce n'est pas interdit, il ira chercher ailleurs en fonction de mes transports. Donc il va dire Paris, je peux aller à Nantes, il cherche, tiens, à Nantes, oui c'est bien, il y a un contrôleur de domaine. Mon poste de travail va donc de Paris, va dialoguer avec DC1 en attente d'un contrôleur réel à Paris. Voilà ce qui clôture ma configuration simple des sites, mais simple, mais qui peut arriver. Puisqu'on parle des sites, revenons sur un concept, ou plutôt parlons d'un concept important de l'Active Directory qui s'appelle le catalogue global. Catalogue global, je vais vous donner le but tout de suite, c'est de faire des recherches. Et il les fait très rapidement. Il fait des recherches dites globales, c'est-à-dire on peut faire une recherche dans tous les domaines de la forêt. Alors après, où c'est qu'il est présent réellement ce catalogue global? Sur tout contrôleur de domaine sur lequel je désire mettre un catalogue global. Et donc ça impose du stockage. Il contient un sous-ensemble de tous les objets de l'annuaire Active Directory en lecture seule. Et très important, le dernier point, il est recommandé d'en avoir au moins un par site et d'en avoir un minimum, c'est obligatoire. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes sur les ouvertures de sessions utilisateurs. Voilà pour le catalogue global. Non, on va y revenir. Comment est-ce que ça se configure finalement? Donc là, je n'ai qu'un contrôleur de domaine. C'est pas, je ne vais pas le couper. Hein. Mais en revanche, ah, ça y est. En revanche, mais comment ça se configure? Ça se trouve tout simplement dans ce qu'on appelle l'objet NTDS settings d'un contrôleur de domaine. Je suis au niveau de la rubrique DC1, NTDS settings, propriété, c'est ici que je vois, catalogue global est coché, donc DC1 est bel et bien catalogue global. Si j'ai un deuxième contrôleur de domaine, je décide ou pas, avec cette case cochée, d'en faire un catalogue global, c'est à vous de voir. La recommandation, c'est au moins un par site, voire deux pour les gros sites, pour de la tolérance de panne. Maintenant, passons à autre chose concernant les contrôleurs de domaine, ce qu'on appelle les read-only domain controllers, donc contrôleurs de domaine en lecture seule, qui concernent aussi la gestion des sites. Et là, on introduit les choses en parlant de serveurs non sécurisés physiquement. On va donner un exemple très simple. En France, beaucoup de grandes sociétés d'assurance ont des agents qui travaillent tout simplement chez eux. Donc c'est chez eux, c'est pas, donc ils n'ont pas de sale serveur avec code d'accès pour rentrer, etc. Vous inquiétez, enfin je pense pas. Et bien souvent, certains de ces agents qui travaillent chez eux ont un serveur de leur entreprise chez eux. Et ils ont carrément un contrôleur de domaine. Et sur un contrôleur de domaine, c'est quand même le premier module, c'est lui qui stocke tous les mots de passe de l'entreprise. Donc ça veut dire que chez un particulier, une grande société d'assurance se retrouve avec tous les mots de passe stockés dans un serveur, sur une machine qui est dans l'entrée, quoi, grosso modo, faut pas rêver. Un peu caché, certes, mais qui est donc susceptible d'être volé. Donc si on vole un contrôleur de domaine, c'est gênant. Tous les mots de passe sont présents dessus, certes chiffrés, mais si les mots de passe sont simples, on peut réussir à récupérer très facilement les mots de passe simples. Après, c'est à vous de voir vos politiques de mots de passe, si elles sont simples ou pas, cependant. Donc, le vol d'un contrôleur de domaine est une forte compromission de la sécurité de l'organisation. Parce que s'il faut changer tous les mots de passe du jour au lendemain, ça va être gênant. Donc, la solution, c'est le RODC, le contrôleur de domaine en lecture seule, dès qu'on a un serveur, un contrôleur de domaine sur un emplacement non physiquement protégé. Et ce n'est pas finalement le fait qu'il est en lecture seule, même si ça peut avoir un intérêt, qui est le plus intéressant, mais c'est surtout que ce contrôleur, ce RODC, il ne stocke pas tous les mots de passe, contrairement à tous les autres contrôleurs. Il ne stocke que les mots de passe des utilisateurs que nous avons nous-mêmes spécifiés. Donc généralement, ça va être le fameux agent d'assurance, son staff, secrétaire et autres. S'ils sont 4-5 personnes, je vais dire, les mots de passe de ces 4-5 personnes seront sur ce RODC qui est chez lui, et c'est tout. Ce qui fait que si on vole son contrôleur de domaine, on peut potentiellement récupérer les mots de passe de 5 personnes que je vais m'empresser de réinitialiser. Il n'y en aura que 5 à réinitialiser. Et en cas de vol d'un RODC, c'est très simple de réinitialiser les mots de passe, nous allons le voir par la suite. Donc effectivement, à partir d'une démonstration. Donc je vais installer un contrôleur de domaine en lecture seule. Pour ça, il faut au préalable créer le compte contrôleur de domaine dans la rubrique domaine contrôleur et dire, on a une entrée très claire, créer préalablement un RODC. J'arrive sur un petit assistant sur lequel je dois m'authentifier. Bon, comme je suis administrateur, j'ai pas trop de problèmes. Je prévois par avance le nom de l'ordinateur, RODC1 par exemple. Il vérifie que ça n'existe pas déjà. Il me dit, il sera dans quel site? Alors théoriquement, il est sur un autre site. Bon, comme je n'en ai qu'un au niveau de l'adresse AJP, je vais prendre Nantes. Il analyse la configuration DNS. Ça lui prend un peu de temps. Donc pendant ce temps-là, on va voir un petit peu autre chose. À noter que j'ai déjà prévu un ordinateur RODC1 sur lequel je vais ouvrir la session. On va aller un petit peu regarder sa configuration, vite fait, très rapidement. Ou même, on va tout de suite faire des choses. Il est bien pour le moment en workgroup. Il doit devenir RODC, donc DC, donc contrôleur de domaine. Donc allons-y. J'installe, comme au deuxième module de ce cours, le rôle Active Directory. Ceci prend un peu de temps aussi, donc je pourrais revenir sur mon Active Directory tout à l'heure. Voilà, hop, c'est parti, installé. Je laisse faire. et je reviens sur mon contrôleur de domaine principal. Il a passé l'assistant de vérification DNS. Et maintenant, il me propose, bah tiens, sur ce futur contrôleur de domaine, qu'est-ce que vous voudrez mettre ? Un serveur DNS ? Oui, tant qu'à faire. Ça sera fait sur le site distant. Si je ne veux pas, je change d'avis. Tiens, un catalogue global. Si je ne veux pas, je change d'avis. Bon, là, je vais le laisser, tout simplement. Et c'est réglé. Je peux décider sur un erreur d'essai qui serait administrateur du serveur. Il ne serait administrateur que du serveur RODC et pas du domaine. Il lui serait impossible de créer des comptes, de les modifier, etc. Simplement, s'il y a de l'assistant, enfin, de la, s'il y a de l'exploitation à faire par téléphone avec une personne, Benjamin par exemple, je devrais mieux... Benjamin par exemple, eh bien, lui pourra le faire parce qu'il sera administrateur du contrôleur de domaine en tant que serveur uniquement. Je vais le faire un petit peu mieux en passant par l'assistant. C'est plus sûr. Voilà, je préfère qu'il écrive MVA anti-slash. Suivant, c'est quasiment terminé, voilà. Le compte est créé. Il est désactivé, on le voit à l'aide de la petite flèche noire. Et donc, j'ai plus qu'à aller l'installer. Donc, j'ai déjà installé Windows. J'ai installé le rôle Active Directory. Je n'ai plus qu'à le configurer, comme tout à l'heure, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Et donc, cette fois, je vais ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Au préalable, je vais m'authentifier, puisque je suis en workgroup, donc il est un peu perdu. Je vais aller bien récupérer le nom complet du domaine, sinon il y aura des petites erreurs, voilà. Donc, si j'avais plusieurs domaines dans ma forêt, je les verrais tous ici. Ici, je n'en ai qu'un. Suivant. Et là, j'ai plus le choix. Tout est grisé parce qu'il me dit, bah, ça sera un RODC, c'est déjà prévu. Donc, c'est déjà prévu dans l'assistant qui soit serveur DNS, catalogue global et RODC du site de Nantes. Ça a déjà été prévu. Plus qu'à mettre le mot de passe de restauration de l'Active Directory. Je vous le rappelle, c'est pas forcément le même. D'ailleurs, j'ai dû faire des fautes. Je recommence à zéro, du coup, c'est préférable. Ce n'est pas forcément le même que le compte de Benjamin ou de l'administrateur, c'est un, ou même que celui de DC1, ça peut être indifférent. Le truc, c'est que si vous mettez des mots de passe différents partout, vous avez intérêt à vous en souvenir d'une manière ou d'une autre, le jour où vous aurez besoin de restaurer. Et voilà, c'est presque fini. Il me dit, ben oui, à partir de quel contrôleur vais-je répliquer ? N'importe lequel, en l'occurrence, je n'ai pas trop le choix. Où est-ce que je vais stocker mon Active Directory ? Vérification des options, quelques vérifications, et on va partir sur l'installation qui est relativement rapide, donc on va pouvoir aller jusqu'au bout. Au passage, j'ai un petit warning. C'est pas bien, j'ai laissé cet ordinateur en DHCP. C'est pas inenvisageable. Pour un réseau de pure agence, comme je l'ai décrit tout à l'heure, chez un particulier, il pourrait très bien être en DHCP, et je vous le dis, ça marche. Il me dit simplement, c'est pas très propre pour un serveur de ne pas être en IP statique. Voilà, donc pendant qu'il termine, mais je suis pas inquiet, ça va aller assez vite, on va aller jeter un petit coup d'œil sur DC1, rafraîchir tout ça, et effectivement, RODC1 est devenu un vrai compte, est activé, et donc est devenu un RODC1. Un contrôleur de domaine en lecture seule, c'est marqué ici aussi, ainsi que Global Catalogue, donc catalogue global. Je vérifie, c'est à mon avis terminé, voilà, il reboot automatiquement, ça devrait être assez rapide. Normalement. Voilà. Ouais, un contrôleur de domaine est un petit peu plus lent à démarrer qu'un post Windows 8, c'est assez normal. Faut pas non plus en demander trop. Donc on va aller voir autre chose pendant ce temps-là. Toujours sur le DC1. Alors on n'était pas trop allé voir les propriétés des contrôleurs de domaine. Donc ici on voit qu'il y a un certain nombre d'onglets, précisément 7. Bah, sur un RODC, il y en a un de plus qui s'appelle stratégie de réplication de mot de passe. Donc c'est là que je vais pouvoir dire quels sont les comptes qui sont autorisés à être stockés sur le RODC et quels sont les mots de passe qui sont refusés. Alors par défaut d'ailleurs, on peut constater, voilà, au niveau des refus, c'est pas idiot du tout. Tout ce qui est compte administrateur sont dans le groupe des refus de stockage de mots de passe sur le RODC en question. Ça me paraît pas absurde. Et par défaut, qui est-ce que l'on stocke ? Ben, personne. Donc à moi de dire, bah tiens, je veux stocker, bah tiens, Benjamin. Voilà, et puis pourquoi pas user 1. Pas du tout Bruno. Il ne va que très rarement sur le site en question. Ça veut dire que si Bruno se retrouve sur le site où il y a le RODC et qu'il veut ouvrir une session, il pourra quand même, même si le mot de passe n'est pas stocké sur RODC 1. Simplement, RODC 1 ira faire valider son mot de passe auprès d'un vrai contrôleur de domaine en lecture-écriture. Voilà, là je fais OK. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu de configuration, j'ai appliqué, allons voir mon RODC 1, il a dû terminer de rebooter, voilà, tout va bien. Je vais ouvrir une session pour constater que tout s'est bien passé, donc déjà il fait bel et bien partie du domaine, je constate. Je laisse lancer tout seul le gestionnaire de serveur, qui va me fournir son petit tableau de bord récapitulatif sur l'état du serveur. Voilà, je suis bien dans le domaine mva.lan, donc tout va bien. Retour donc sur la gestion de ce RODC et de ses stockages de mots de passe. Je peux à tout moment savoir où on en est, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là, savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'il stocke comme mot de passe mon RODC1 ? Bah, son propre mot de passe de compte d'ordinateur, ainsi que celui d'un compte système Windows qui est obligatoire, pas de problème. Et finalement, en ce qui concerne Benjamin, il ne stocke pas son mot de passe. Pourquoi ? Bah, parce que Benjamin n'a jamais ouvert une session sur le RODC1. Si jamais il va ouvrir une session, ce que je pourrais faire, allons-y. Donc là, il va falloir appuyer un petit peu sur CTRL. Non, je vais tout simplement fermer la session. Ah, il faut quand même appuyer sur CTRL. Hop. Petite faute de frappe. Voilà, j'ouvre une session. Le RODC1 est donc bel et bien allé faire valider, puisqu'il ne connaissait pas le mot de passe de Benjamin, faire valider l'authentification sur DC1, et au passage, il a conservé le mot de passe de Benjamin chez lui. Vérification. Donc là, je ferme un petit peu. Je vais fermer un petit peu tout ça pour rafraîchir. Voilà, je vérifie. Benjamin, maintenant, le mot de passe de Benjamin est bel et bien stocké sur RODC1. Si je suis pressé, puisque finalement j'avais demandé à mon RODC de stocker les mots de passe de Benjamin et de User1 et que je n'ai pas envie d'attendre que User1 aille sur le site, etc., pour pouvoir stocker ce fameux mot de passe, je peux carrément pré-remplir les mots de passe et dire, bah tiens, je veux que le mot de passe de User1 soit présent sur RODC1. Dans la mesure où il est autorisé. Auquel cas, là, j'ai une très belle boîte de dialogue qui me dit pensez aussi peut-être à mettre le mot de passe de son compte d'ordinateur. De cette manière, il pourra ouvrir une session de manière complètement autonome sur le site distant. Bon, en l'occurrence, je n'avais pas prévu. C'est pas bien grave, il n'a pas de poste de travail, ce pauvre user. Et voilà, c'est réglé. Donc maintenant, j'ai un RODC1 qui possède deux mots de passe, celui de Benjamin et de user. C'est réglé. Et maintenant, que se passe-t-il si ce RODC1 se fait voler ? Il va falloir que je réinitialise les mots de passe de Benjamin, User1 et pourquoi pas 5-6 personnes de plus. Bref, il faudrait que j'aille le faire à la main, etc. Non, pas du tout. J'ai un assistant pour ça qui est très bien fait. Je vais tout simplement dire le serveur a été volé, ben je le supprime. Et puisque c'est un RODC, je rentre dans un assistant supplémentaire qui me dit « Voulez-vous réinitialiser tous les mots de passe des comptes utilisateurs, tous les mots de passe des comptes d'ordinateur ? Et si jamais il y a un petit paquet, bah, tant qu'à faire, mettre dans un fichier texte tout ce qui a été réinitialisé afin que vous, administrateurs, vous puissiez aller mettre un nouveau mot de passe et le fournir aux utilisateurs concernés. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Et là, je vais réinitialiser les mots de passe de tous les comptes d'utilisateurs. En l'occurrence, Benjamin User. Suppression, ça supprime le compte. Et alors, il y a beaucoup de validations. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous le faites, c'est que vous voulez le faire. Et normalement, maintenant, l'utilisateur Benjamin, qui est d'ailleurs devenu spécial, n'a plus son ancien mot de passe. Et d'ailleurs, moi-même, je ne le connais pas. Il y a la réinitialisation du mot de passe, qui n'a pas été faite par moi, l'administrateur, mais par le système, c'est faite de manière aléatoire. Donc, je ne suis pas prêt de le connaître. Et du coup, il est très fort. Petite vérification, est-ce que Benjamin a toujours son mot de passe? Donc, autrefois, il travaillait ici. Donc là, il a juste verrouillé son écran. Donc, il y a des chances qu'il puisse déverrouiller, en effet. En revanche, s'il ferme sa session et qu'il essaye de se reconnecter, alors en fait, je vous n'avais jamais montré le mot de passe, mais bon, c'est un grand mot de passe classique pour tout ce qui est court, MVA et Microsoft en général. J'utilise pas d'autres mots de passe hein, depuis le début de ce cours-là. Et là, il ne marche plus, le mot de passe est incorrect. Donc, je ne le connais pas. Qu'est-ce qui me reste comme solution pour aider Benjamin? Ben, moi, en tant qu'administrateur, je vais lui mettre un mot de passe que je définis moi-même. À ce niveau-là, je lui impose de le changer et c'est reparti. Benjamin peut retravailler. Bon, au préalable, j'ai intérêt à refaire un RODC. Etc. Enfin, il faut régler le sinistre vol qui s'est produit. Donc voilà ce qui clôture cette partie sur la gestion des sites distants, tant aussi bien réseau que bonnes pratiques et les sites avec possibilité de vol de serveurs. Et voilà ce qui clôture finalement notre cours sur l'Active Directory, où on a pu voir que certes, c'est un moyen de centraliser la base de compte utilisateur et d'avoir le mot de passe qui est disponible à l'identique sur de nombreux postes de travail ainsi que sur des applications tierces. Mais c'est aussi une aide notable à la configuration des environnements de postes de travail, par exemple aux travailleurs des GPO, tout en prenant en compte tous les éléments importants de la sécurité d'un environnement informatique. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. À bientôt pour un nouveau cours.